Et aujourd'hui, l'invité du vendredi s'appelle Pierre Vignon. Bonjour mon père, vous avez fait la une de l'actualité. Vous êtes prêtre ici à Saint-Martin-en-Vercors et vous êtes prêtre du diocèse de Valence. Et vous avez demandé la démission du cardinal Barbarin, que vous accusez de faire taire, hein, clairement les actes pédophiles qui ont été commis au sein de l'Église. Depuis, vous avez été sanctionné, vous n'êtes plus juge ecclésiastique. Est-ce que cette sanction a provoqué quelque chose chez vous, dans le bien ou dans le mal, j'allais dire?
Oh ben, moi, je suis un homme qui a l'âge de la retraite civile. Alors, si on me retire des dossiers, je ne suis pas malheureux, sauf pour les gens à qui ça rend des services. Mais enfin, bon, chacun, tout le monde est utile, personne n'est indispensable. Ce qui. J'avais expliqué à Monseigneur Michel, évêque de Valence, quand il m'avait convoqué le 1er septembre, c'était que ce que je viens de vous dire et que. Cette décision la retomberait dessus. Alors il m'avait demandé pourquoi. J'avais dit, ben, écoutez, moi je n'ai pas cherché la notoriété qui est la mienne maintenant, mais avec cette notoriété, vous serez inévitablement considérés comme des personnes qui veulent faire taire celui qui a parlé. Et là, vous serez dans le très mauvais, très mauvaise position. Alors, tout de suite après, comme il m'avait laissé entendre cette possibilité, sous forme de menaces voilées, j'avais écrit au bureau des évêques de France pour leur dire, écoutez, voilà ce que mon évêque m'a dit à propos des évêques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ça serait quand même bien d'intervenir pour leur empêcher de faire cette erreur. Parce que pour moi, ça ne pose pas de problème, mais ça retombera dessus. Bon, je n'avais pas eu de réponse. Et finalement, j'ai donc appris le 1er novembre. Mais si ça ne vous ennuie pas, je veux bien expliquer comment je l'ai appris.
Allez-y, mon père, bien sûr.
Et parce que le 31 octobre, Monseigneur Michel, mon évêque, m'a téléphoné le soir longuement pour me refaire la même pression voilée, qu'il était possible que. Et alors, j'ai redit les mêmes choses. J'ai dit, Monseigneur, c'est pas la peine que je vous le redise, vous savez déjà la réponse. Et le matin de la Toussaint, le 1er novembre, je me suis dit, comme j'avais encore une série de dossiers à faire, à travailler, j'ai dit, je les fais ou je les fais pas. Si je suis plus juge, je n'ai pas à les faire. Donc c'est là où j'ai passé un mail au père Nicolas de Bocard, responsable de l'officialité interdiocésaine de Lyon, et que je lui ai demandé, bah alors je suis ou je suis pas. Là, il a profité de me donner le coup de pied de l'âne. Et par un mail très sec et très m'expliquant voilà que je n'étais plus juge et que j'étais remercié, mais qu'il fallait quand même que je fasse les dossiers, ce qui est une inconséquence incroyable parce que si je suis pas, je vois pas pourquoi comment je pouvais faire. Alors j'ai compris par la suite. Alors j'en ai parlé à des amis qui ont prévenu les médias. Et après tout s'est enflammé. Le 1er novembre à l'après-midi c'était national et le 2 novembre c'était international. J'ai encore eu hier un article du meilleur vaticaniste, Marco Politti, dans Il Fatto Quotidiano, donc un quotidien italien, Le Fait Quotidien. Et ça a déjà fait le tour du monde, puisque la Société de Presse s'en est mêlée, etc. Voilà. Donc ce que j'avais dit est arrivé. Et une pétition que je n'ai pas organisée, je tiens à le préciser, a été lancée pour demander ma réhabilitation. Et elle arrive, elle est pas loin de. Donc sur le site change.org, et elle arrive à pas loin de 70 000 voix.
Est-ce que ça vous incite à continuer et à persister à demander la démission du cardinal Barbarin?
Parce que j'ai dit sur le coup, j'ai dit la décision, elle appartient à ceux qui l'ont prise, bien qu'elle ne soit invalide, je m'en expliquerai si vous voulez bien. Mais. Ça ne remet en rien en cause ce que j'ai dit en conscience.
Alors, invalide, pourquoi?
Eh bien, elle a été prise, on a appris après coup que les évêques d'Auvergne, donc ça fait 4 sur les 12, n'étaient pas au courant. Comme mon évêque n'était pas au courant la veille, donc il est bien probable que les autres de la région Rhône-Alpes ne l'étaient pas davantage. Et donc ça paraît évident que c'est une tentative du cardinal Barbarin parce qu'il me laissait planer la menace depuis déjà plusieurs mois, pour dire, bon, ben, ça suffit, celui-là, il commence à nous énerver. Donc, c'est une tentative arbitraire. Et c'est comme ça que ça a été interprété à Lourdes, puisque au début de la conférence des évêques de France, le 3 novembre, il a été pris à partie par ses confrères évêques, parce que visiblement, il leur coulait le navire. Et c'est là où il a trouvé comme réponse que c'est une erreur de timing. Alors ça, je vous expliquerai, ça me paraît très intéressant. Ce à quoi moi j'ai répondu immédiatement en disant, ben, s'il a fait une erreur de timing, c'est qu'il y a peut-être une erreur de casting. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on ait des chefs qui agissent de façon arbitraire dans l'Église? C'est pas possible. C'est contraire au droit fondamental de l'Église. Alors, c'est-à-dire, les autres évêques n'étaient pas au courant. Alors je tiens à préciser que les 12 évêques de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont tout à fait le droit de promulguer des statuts, c'est leur travail. Mais comme moi j'ai été nommé sous les anciens statuts et que les lois ne sont pas rétroactives, j'aurais dû être débarqué, entre guillemets, selon les. Ce que j'aurais tout à fait accepté d'ailleurs. Alors non seulement par un texte écrit, mais motivé, c'est selon le code de droit canonique. Donc ces textes n'existent pas, bien sûr. Et j'ai déjà dit que si on m'en produisait maintenant, je les considérerais comme des faux, puisque fait après coup. Donc cette décision est invalide et j'ai fait valoir à qui de droit, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est-à-dire en plus haut lieu, cette affaire. Voilà.
Jusqu'où vous êtes prêt à aller, mon père, pour faire éclater cette vérité aujourd'hui et cette libération de la parole concernant des éventuels actes pédophiles commis au sein de l'Église?
Alors, faut être plus précis. La pédophilie, tout le monde est contre, même le cardinal Barbarin. Ça, c'est pas ça que j'ai dit. C'est la couverture de la pédophilie, c'est-à-dire l'omerta à ce sujet-là. Et si j'avais pris à partie le cardinal Barbarin, non pas dans sa personne, mais dans sa fonction, c'est précisément parce qu'il est devenu l'emblème de cette situation-là, c'est-à-dire non seulement aucune conscience de la réalité, puisque quand il a reçu, il dit qu'il a convoqué Bernard Prénat, il dit, mais voilà, je lui ai dit, en gros, j'ai fait la leçon, et puis il m'a dit, non, non, mais moi, j'ai rien fait. Je dis, à ce niveau-là d'inconscience, c'est incroyable, quoi, parce que... Ah, mais moi, je l'ai cru, a-t-il dit, d'ailleurs. Donc, c'est là où il y a erreur de casting, parce que c'est une pathologie. Le fait que Bernard Prénat soit malade, ça personne le conteste. C'est une pathologie irréversible. Ce qu'on conteste, c'est qu'il soit laissé dans le service et qu'il continue. Alors il dit, oui, mais après, j'ai plus rien fait depuis 1991, c'est-à-dire bien 10 ans, plus de 10 ans avant l'arrivée du cardinal Barbarin. Alors j'aimerais bien en être sûr qu'il n'ait rien fait après 1991. Pour moi, vu qu'il s'agit d'une pathologie irréversible, je ne le crois pas. Et donc, vu le temps que les victimes qui sont sidérées mettent pour pouvoir avouer et parler en public ces difficultés-là, on n'a pas encore tout découvert. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir présent à l'esprit que les garçons et filles, jeunes gens et jeunes filles, victimes d'abus sexuels graves, beaucoup se suicident. Ensuite, il fait exprès. Vous pouvez retoucher après. Beaucoup se suicident. Beaucoup restent englués dans le sentiment de fausse culpabilité dans lequel leur prédateur ou leur prédatrice les a enfermés. Et ce sont très rares les personnes qui réussissent à sortir de cette sidération et à parler. Et c'est pourquoi il faut rendre hommage aux victimes de la parole libérée qui ont eu le courage énorme de parler. En particulier pour des garçons, oser dire ben oui, je me suis fait. Ça, il faut un courage extraordinaire. Et donc, ça demande beaucoup d'estime et de respect de notre part.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu devenu le porte-parole, entre guillemets, de ces personnes-là qui n'ont jamais peut-être osé parler, qui finalement libèrent un petit peu leur parole? Est-ce que clairement, ici à Saint-Martin-en-Vercors, on vient vous voir pour vous raconter des choses qui se sont passées au sein de l'Église?
C'est une chose que je n'ai pas cherchée. Et ça fait un peu plus de 15 ans que ça a commencé, en particulier à propos des abus de pouvoir. Parce que le pape a bien dit dans sa lettre du 20 août que la racine, c'est le cléricalisme, c'est-à-dire une forme déviante de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Et à partir du moment où quelqu'un invoque le bon Dieu pour dire j'ai le droit de vous écrabouiller, c'est déjà pas possible. Et à ce moment-là, des gens sont venus se plaindre de certaines affaires, des religieuses écrabouillées dans des couvents par des mères supérieures un peu trop autoritaires, des jeunes moines dont le père abbé était un petit peu trop, justement, trop tout puissant, etc. Et puis, petit à petit, ça en est arrivé aux abus sexuels. Et comme j'ai un tempérament à ne pas reculer, je me suis trouvé à donner des conseils. C'est un petit peu ce qui m'a été reproché indirectement et de façon sous-entendue par ma hiérarchie. Normalement, là où les gens se plaignent le plus dans les officialités, c'est à propos de leur mariage. Donc, on étudie les dossiers pour pouvoir leur dire en conscience oui ou non, vous étiez pas marié ou marié devant Dieu, ce qui est une libération pour beaucoup. On me dit, voilà, le père Vignon ne s'est pas occupé, etc., de ceci, cela. Mais en fait, étant spécialisé en droit canonique, j'étais amené à conseiller ces personnes. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs signalé à mes autorités, sans parler des dossiers et des personnes que j'accompagnais. C'était admis. Ça n'était plus été admis à partir du moment où je mettais en cause le cardinal Barbarin. Alors il est devenu effectivement l'emblème. Et puis moi aussi, quelque part, c'est une chose que je n'ai pas cherchée, ce n'est pas une mission que j'ai reçue, mais c'est un donné de fait. Ayant conseillé, défendu l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ils se sont donné le mot. Du coup, j'ai été ces 10-15 dernières années beaucoup occupé par tous ces dossiers-là. Et c'est comme ça que la chose s'est faite. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je restais dans l'ombre parce qu'en disant, c'est mieux que je puisse les aider que d'aller, en particulier au début de la parole libérée que j'ai tout de suite soutenue à cause pour des raisons que je vous ai expliquées, le courage qu'ils ont extraordinaire. Il a été entendu que c'était mieux que je reste dans l'ombre s'ils avaient pouvoir donner des conseils. Et puis, sans le faire exprès, à la suite de la lettre du pape François le 20 août, lettre au peuple de Dieu, qui en appelle à tout le monde, et pour agir contre le cléricalisme et contre l'abus de pouvoir, je suis passé en pleine lumière. C'était absolument pas préparé. J'étais incapable d'organiser cette chose-là. La lettre qui a été mise en ligne. La lettre qui a été mise en ligne le 21 août à 10 h. À 11 h, j'avais les premiers appels de journalistes. À 1 h, ils étaient sur la place du village à Saint-Martin-en-Vercors. Ça a duré jusqu'à 10 h du soir. Le lendemain matin, j'avais Jean-Jacques Bourdin à 7 h 10, etc. Ça a duré comme ça pendant 3 semaines. Et donc, ce n'était pas moi, ma personne, parce que, au point de vue santé, au point de vue de mon âge, de mon apparence, etc., je ne cherche pas à crever l'écran à l'heure qu'il est. Donc, c'est ma parole qui a porté, parce que c'est tombé sur moi. J'ai été apparemment le premier à dire cette parole qui était attendue par beaucoup de gens. Et de ce fait-là, j'ai décidé, puisque j'étais passé de l'ombre à la lumière, j'ai décidé, non pas de me mettre en avant, comme certains m'en ont accusé, mais pas pour moi, qui aurait plutôt eu envie de me cacher, mais pour les victimes. Et donc, je suis décidé, pour répondre à votre question, à aller jusqu'au bout pour les victimes. Tout ce que je pourrais faire d'utile sera bien, en précisant que je ne suis pas le seul prêtre en France, je ne suis pas le seul catholique, et tous ceux qui ont quelque chose à faire dans ce domaine-là et à agir, ben, qu'ils sortent aussi du bois et qu'ils passent de l'ombre à la lumière. Je vois pourquoi je resterai tout seul, je n'ai pas vocation à être star ou à être un nouvel abbé Pierre.
Qu'est-ce qu'il faut faire, mon père, plus largement, pour faire évoluer, parce que c'est un petit peu le sens aussi de votre démarche, l'image de l'Église? Est-ce qu'elle doit faire un travail en profondeur, justement, au niveau peut-être aussi du diocèse, des évêques, des cardinaux, etc.?
Alors, ce travail est commencé. Maintenant, Monseigneur Crépy, évêque du Puy-en-Velay, qui s'occupe de ça, c'est clair que la direction est prise dans ce sens-là. On a appris hier la nomination de Monsieur Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, qui est un homme ex-qualité tout à fait remarquable et capable de faire ces choses-là. Donc la confiance revient. Ce qui est à faire, c'est les évêques en sourdine qui traînent les pieds encore. Alors là, ça serait quand même bien qu'ils ne les traînent plus, parce que c'est, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, contraints et forcés, et sous la pression de l'opinion populaire, de l'opinion publique, pardon, qu'ils ont quand même agi. Alors maintenant, on aimerait bien qu'ils prennent des initiatives en disant, voilà, non, maintenant c'est clair, on veut faire le ménage, on met plus de freins, on cache plus d'archives, on prend des mesures, on agit. Et de ce point de vue-là, je ne regretterai pas tout ce qui s'est passé autour de ma personne, puisque ça aurait pu aider à sa façon à avancer dans ce sens-là.
Et vous allez, on peut le dire peut-être, l'actualité, on va entendre encore parler de vous dans quelques mois, parce que vous allez publier un livre, c'est ça?
Alors, c'est-à-dire, ça s'est trouvé que j'ai eu l'occasion, grâce à un ami, François Jourdain, spécialiste de communication, qui m'a proposé donc de coécrire un livre qui sortira le 2 janvier, et dans lequel j'ai reçu aujourd'hui les derniers tirages, les dernières épreuves à corriger, et donc ça sera. Ça permet, je vais pouvoir m'expliquer. Et on verra bien que ce n'est pas ma personne qui compte, ni le combat de contre ceci et cela, mais bien le sujet des victimes qui est le plus important.
Merci mon père d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pierre Vignon, prêtre du diocèse de Valence et ici à Saint-Martin-en-Vercors.
Et merci à vous, Guillaume.